1, 2, 1, 2.
Parlons vrai avec BNP Paribas.
Je pars bientôt à la retraite et je me suis encore coincé le dos. Je fais comment pour payer l'ostéopathe?
Eh bien, je vous conseille la complémentaire santé BNP Paribas qui peut prendre en charge les médecines douces. Ah. Et si vous souscrivez lors de votre départ à la retraite, vous bénéficiez de 25% de réduction la première année.
25%?
Mm-hmm.
Pas mal. Moi qui pensais dos au mur, ça va mieux.
BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
BNP Paribas Protection Santé assurée par Cardif Assurance Vie, entreprise régie par le Code des Assurances. Voir conditions en agence.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Elle était la reine du crime. Les ventes de ses romans, traduits dans près de 60 langues, se comptent en centaines de millions et même en milliards d'exemplaires, ce qui fait d'elle l'auteur le plus lu dans le monde après William Shakespeare. Vous l'aurez compris, Franck Ferrand nous parle d'Agatha Christie aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous avez raison, on cite le chiffre de 2 milliards pour les ventes d'ouvrages signés Christie, peut-être même 2 milliards et demi. Ça donne une idée de l'importance planétaire du phénomène. Un phénomène qui ne paraît pas en passe de s'éteindre, semble-t-il, près de 4 décennies après la disparition de son instigatrice. Je vous rappelle qu'Agatha Christie est morte le 12 janvier 1976, à l'âge de 85 ans. L'œuvre de la Duchesse de la Mort, qui englobait la radio et le théâtre, hante aujourd'hui les écrans, grands et petits. Nous en parlerons tout à l'heure en compagnie d'un cinéaste français amoureux de Dame Agatha, Pascal Thomas en personne.
Et en attendant, c'est un autre fan d'Hercule Poirot et de Miss Marple que vous avez convié à nous rejoindre, François Rivière.
Et oui, François Rivière, qui est un peu à Agatha Christie, ce que Jean Tullard est à Napoléon ou Evelyne Levert à Marie-Antoinette, le biographe attitré. C'est le moment de lui poser toutes les questions qui vous taraudraient. Je vous garantis qu'il a réponse à tout. Cet après-midi, sur Europe 1, le crime devient un jeu de salon.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
On me demande souvent pourquoi son œuvre reste si populaire, disait la fille d'Agatha Christie. Il me semble que c'est avant tout parce qu'elle savait raconter une histoire. Ses livres sont courts, vous voulez sans cesse connaître la suite et vous ne pouvez pas les lâcher. « Ma mère était chrétienne et croyait au combat entre le bien et le mal », ajoutait Rosalind Hicks. « Elle pensait que les assassins devaient être arrêtés et punis et désirait plus que tout ne pas voir souffrir les innocents. » Certes, elle écrivait des histoires avec des meurtres, mais elle ne supportait pas la violence et toutes ces histoires possèdent une part importante de moralité. En vérité, je crois qu'elle écrivait pour divertir les gens. Et c'est sans doute, dans la bouche de sa propre fille, le secret ultime du succès phénoménal d'Agatha Christie, avoir été conçu sans autre but visible ou caché que de divertir les lecteurs, qui peuvent devenir d'ailleurs des spectateurs ou des téléspectateurs. Certes, elle n'a pas inventé le roman policier, plus exactement le roman d'énigme ou de détection, mais à l'évidence, elle en a incarné l'apogée à travers 66 romans, 17 recueils de nouvelles, une quinzaine de pièces de théâtre, dont certaines conçues directement pour la radio. Il y a un quart de siècle, mon Dieu déjà, un livre ne quittait jamais mon chevet, cela s'appelait « Agatha Christie, l'écriture du crime » d'une certaine Annie Combe, que nous n'avons pas réussi à retrouver d'ailleurs, mais à qui j'envoie un appel, un peu comme une bouteille à la mer. L'auteur y décortique les incroyables mécanismes élaborés à plusieurs détentes par la reine du crime pour permettre à ses 158 assassins de papier, à ses 227 victimes pour rire, de nous surprendre, de nous dérouter, surtout de nous empêcher de trouver des solutions parfois tortueuses mais souvent d'une évidence magistrale. Dédoublements, substitutions, règles biaisées, empreintes, fausses pistes masquant la vraie, le tout dans un monde de conventions trompeuses et de fausses tranquillités. Et puis des leurres, des miroirs, des faux-semblants, des morts qui ne sont pas morts mais qui finissent par l'être, des meurtres perpétrés bien avant le bruit qu'ils font ou bien après leur annonce officielle, des systèmes fatals à double détente, des assassins assassinés, des enquêteurs coupables et des suspects finalement victimes. L'imagination de Dame Agatha était proprement sans limite. Alors ça, c'est pour l'écrivain, mais la femme là-dedans. Qui était en vérité cette Agatha Miller, épouse Malowan, dame respectable du très cossu Devon? anobli par la reine Elisabeth en 1971 et qui signait certains de ses titres du pseudo de Mary Westmacott. Pour nous aider à le découvrir, j'ai fait appel à son biographe attitré de ce côté-ci de la Manche qui signe aux éditions de La Martinière un très bel album hagiographique et délibérément hagiographique, un album absolument complet intitulé « Agatha Christie, la romance du crime ». Chaque page, on peut le dire, est un cadeau fait aux amoureux de la campagne anglaise infestée d'assassins souriants, de pistes glissantes et de coups de canif au contrat de lecture, de titres à double fond et de comptines pour enfants pervers à triple entente parfois. One, two, buckle my show, hickory dickory dock, la mort est là, qui rôde au long d'enfilades victoriennes par des cottages art déco et des jardins d'hiver trop pimpants pour être honnête, parmi les plaids en tweed et les chintz fleuris. Vous sentez monter le frisson délicieux? Un bon thé bien fumé, des bûches qui crépitent dans l'âtre, un chat au nom de major colonial qui s'étire parmi les cadres d'argent. Voilà comment je conçois un mois de novembre acceptable.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec votre premier invité sur Europe 1, Franck, il s'agit de François Rivière, qui est romancier, journaliste littéraire et auteur de scénarios de BD. Il est à l'origine de récits policiers et de biographies d'Agatha Christie, dont il est le spécialiste.
Et dont ce très bel album, donc je dis album, c'est un ouvrage illustré, vous savez. Agatha Christie, la romance du crime, c'est aux éditions de La Martinière. Bonjour François Rivière.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On a un peu l'impression, grâce à vous, que la reine du crime est avec nous dans ce studio. Alors, j'aimerais qu'on commence par raconter un peu sa vie. Elle est née en 1890, comme le général de Gaulle. Elle est née dans une bonne famille, disons-le.
Elle est née d'un père américain qui avait beaucoup voyagé, enfin, avant de se fixer, à Torquay, dans le Devon, le sud Devon. Ayant épousé une Anglaise, elle, une Anglaise bon teint, assez malheureuse dans son enfance et qui était tombée amoureuse de ce lointain cousin, parce qu'ils étaient cousins par alliance. Et Agatha était la troisième enfant, le troisième enfant de ce couple qui vivait dans une très belle maison qui a malheureusement été démolie, donc on peut plus trop se rendre compte, mais on peut juste en voyant un peu à quoi ressemblaient les maisons que les Américains notamment faisaient construire à Torquay, on peut se rendre compte que ça ressemblait un peu à quelque chose de colonial, enfin,
oui, voilà,
avec
c'est
une
ça,
ambiance,
c'est
une végétation luxuriante, parce que le Gulf Stream à l'époque passait par là.
Il y a eu un petit changement climatique entre-temps.
Oui, malheureusement. Mais ces maisons étaient entourées de vérandas remplies de plantes exotiques. Et Agatha a vécu une enfance absolument merveilleuse. Les deux tiers de son autobiographie sont consacrés pratiquement...
Elle était la troisième enfant de la famille?
À cette époque. Alors, elle était la troisième, elle était la petite dernière, et elle a vécu un peu comme une enfance seule, enfin avec ses parents, son papa qui était déjà assez âgé.
Et qui meurt quand elle est toute jeune encore.
Qui meurt quand elle a 11 ans, et effectivement quand il meurt c'est la fin de quelque chose, enfin, c'est la fin du paradis, elle retombe un peu sur terre à ce moment-là.
Et est-ce qu'on peut dire que cette mort de son père, qui intervient à l'âge peut-être le plus délicat, hein, quand elle a 11 ans, c'est-à-dire vraiment au moment où l'on se pose tant de questions sur la vie, sur le monde, est-ce que cette mort, d'après vous, a joué un rôle dans l'espèce de fascination objective qu'elle éprouvera quand même pour la mort, hein, puisque l'ensemble de son œuvre ne parle finalement que de mort brutale?
Oui, elle a beaucoup joué avec la mort dans sa vie. Effectivement, d'où lui vient ce goût morbide? On peut pas le définir de manière très précise. Effectivement, la mort de son père a été quelque chose d'abominable pour elle. Il y a eu aussi cette rencontre un jour, alors qu'elle se promenait dans la campagne avec sa nounou, d'un personnage armé d'un fusil certainement, et qui l'a traumatisé mais durablement. Elle l'appelait après le gunman, l'homme au revolver, et on retrouve régulièrement, et dans sa vie, dans ses fantasmes et dans ses romans, on retrouve effectivement ce personnage qui d'un seul coup arrête brutalement la vie de quelqu'un.
Et sa fille Rosaline disait à quel point elle détestait la violence, hein, elle avait une sorte de hantise de cette violence.
Elle était effectivement, c'était quelqu'un qui n'aimait pas la violence, qui dans ses romans finalement préférait utiliser les poisons plutôt que les armes à feu ou les armes blanches. Oui, finalement, le but de ces livres n'était pas justement de déchaîner la violence, mais plutôt de la maîtriser, de la contrôler complètement.
De l'encadrer, de la transformer en jeu quasiment.
Et d'en faire un jeu qui destiné à mystifier le lecteur et après lui donner, à le soulager à la fin du livre.
On dédramatise finalement dans tous ces romans d'Agatha Christie. Est-ce qu'elle est une auteure précoce? Est-ce qu'elle écrit étant jeune?
Alors, sa mère qui s'appelait Clara était un personnage assez fantasque, qui était très porté sur ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque le paranormal. Il y avait déjà beaucoup de gens qui faisaient des séances spirites.
Ah, c'était la mode,
c'était vraiment
évidemment.
La mode. Il y avait beaucoup de charlatans d'ailleurs. Et mais elle racontait des histoires qui excitaient beaucoup l'imagination de sa petite dernière. Et c'est elle qui l'a un peu incité à écrire quand elle a eu 12-13 ans. Et sa sœur aussi, sa sœur Madge, là, qui était, elle, une grande lectrice et qui écrivait des nouvelles, qui avait même écrit une pièce de théâtre.
Elle a joué un rôle important, sa sœur. Hein. C'est un peu, le premier roman naît d'un défi entre elles, du reste.
Oui, et qui l'a mise au défi d'écrire un roman un peu plus tard, après avoir lu, elle l'avait lu d'ailleurs toutes les deux, Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, qui venait d'être traduit, parce qu'à l'époque, les auteurs de romans d'aventure, de romans de mystère français avaient un impact quasi mondial.
Alors ça, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Dès 1914, au moment où l'Europe bascule dans la guerre, elle bascule, si je puis dire, dans le mariage.
Oui, elle était, comme beaucoup de jeunes filles, elle était avide d'une rencontre décisive, définitive, ce que le destin n'a pas voulu pour elle d'ailleurs, avec un beau jeune homme. Et ce beau jeune homme, elle l'a rencontré un soir pendant un bal dans la région, dans sa région.
Archie.
Un certain Archibald Christie, oui, qui était, qui l'a immédiatement séduit, qui a été très assidu tout de suite, qui a convaincu la maman d'Agatha de convoler avec sa fille. Mais tout ça se passant au moment où la guerre de 14 venait d'être déclarée, il s'est passé quelques mois pendant lesquels les deux tourtereaux ne se sont pas vus. Et finalement, ils se sont mariés à la sauvette à la fin de l'année 14. Archibald repartant au combat, et il était dans la RAF, donc tout était à craindre. Hein. Il était lui-même persuadé de ne pas survivre à la guerre. Et ils se sont retrouvés quand même un peu plus tard. Et pendant ce temps-là, donc, elle a continué à mener une vie solitaire, enfin une vie d'engager volontaire comme infirmière dans un dispensaire, là où elle a étudié les poisons, ce qui allait bien lui servir pour après, ou même pour dès le premier roman qu'elle a écrit donc pendant la guerre, seule dans un hôtel battu par les vents sur la lande de Dartmoor, la fameuse lande de Dartmoor que les lecteurs connaissent quand ils ont lu Le Chien des Baskerville de Conan Doyle.
Le roman en question, c'est La mystérieuse affaire de Steele.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
La Duchesse de la Mort est à l'honneur sur Europe 1 et nous parlons d'Agatha Christie en compagnie de son plus grand biographe français. Il s'agit de François Rivière.
Et il y a dans l'ouvrage que publie François Rivière aux éditions de l'Archipel, de la Martinière, c'est que je suis en train de feuilleter tout en vous parlant. Il ne faut pas faire ça. Il y a de très jolies photos d'Agatha Christie, alors telle qu'on la connaît, si je puis dire, c'est-à-dire la dame replète avec ses rangs de perles et ses cheveux argentés impeccablement bouclés. Mais avant de ça, qu'était-elle? Quel genre de jeune fille était-elle? D'abord, quel est son caractère, François Rivière?
D'abord, il faut savoir que c'était une grande jeune fille rousse, comme beaucoup d'anglaises, avec un teint d'anglaise, évidemment. Plutôt enjouée, pas tellement bavarde. Enfin, c'est-à-dire aimant la vie, aimant sortir, aimant...
assez sensuelle, ouais. Finalement.
Oui,
et gourmande. Hein.
Gourmande de la vie, oui, et gourmande tout court, d'ailleurs. Parce qu'elle était... Alors, c'est ce qui, après, nuit énormément à sa ligne.
À sa ligne, oui, ça.
Oui, mais elle aimait la vie, oui, elle aimait les gens. Elle aimait beaucoup, d'ailleurs, regarder les gens, plutôt que de leur parler. Mais puis après, ça s'est un petit peu aggravé avec le temps, à mesure qu'elle s'enfonçait dans son œuvre.
Elle adorait le théâtre, nous dites-vous. Elle aimait beaucoup la musique. D'ailleurs, elle voulait être chanteuse, j'ignorais ça.
Oui, c'est-à-dire qu'elle est venue à Paris faire des études
voilà,
de chant,
oui, c'est ça.
De musique. Son rêve de jeune fille, c'était de monter sur une scène et de chanter des airs d'opéra. Mais ça, dès la première, la fois où on lui a permis de monter sur une scène, elle est restée muette. Donc on lui a fait comprendre que c'était pas la peine d'insister. Elle était aussi très timide d'une certaine manière. Enfin, ce qu'on appelle timide, c'est-à-dire qu'elle était réservée.
Alors son premier mariage dont nous parlions tout à l'heure avec Archibald Christie, qui va lui donner ce nom d'Agatha Christie puisqu'elle est née Miller, ce premier mariage ne marche pas, disons-le, il tourne relativement vite court et il va néanmoins donner naissance à deux enfants, deux petites filles dont Rosalind, c'est ça ? Une petite fille ?
Une fille, oui.
Oui, une fille.
Son unique enfant, oui. Rosalind, oui, qui ressemblait beaucoup à son père et qui a qui a été témoin au fond des scènes de ménage et de la manière dont se passait cette relation de couple. Le père aimait beaucoup sa fille, jouait beaucoup avec elle, alors qu'Agatha, elle, était enfoncée dans son monde de littérature, parce que dès le premier roman elle s'est mise à écrire de manière ininterrompue d'innombrables nouvelles. Elle s'est fait d'abord connaître, en fait, comme un auteur de nouvelles policières. Et pendant ce temps-là, donc, elle s'occupait pas vraiment de sa fille. Son mari ne comprenait pas pourquoi elle désertait, d'une certaine manière, le monde réel. Lui-même s'est mis à jouer beaucoup au golf. Et c'est là qu'il a rencontré une jeune femme qui est devenue sa maîtresse.
Et ça coïncide avec la mort, en plus, d'un drame familial pour Agatha Christie.
C'est ça, avec la mort de Clara, donc Clara Miller, la mère d'Agatha, à laquelle celle-ci était très, très, très attachée. Et elle est tombée dans une espèce de semi-dépression, en fait, tout en continuant à écrire.
Et en 26, là?
On est en 1926, et elle publie, c'est l'année où elle publie Le meurtre de Roger Ackroyd, qui est un de ses chefs-d'œuvre. Mmh. Et dans lequel elle triche un peu par rapport aux règles du genre.
On n'en dira pas plus, parce qu'il y a de très jeunes auditeurs qui veulent lire le meurtre de Roger Ackroyd, on ne peut pas leur donner la solution, mais c'est vrai que c'est assez stupéfiant.
Il ne faut jamais raconter la fin des romans d'Agatha Christie. Hein. Mais oui, elle fait quelque chose qui lui a valu d'être un petit peu fustigée par ses collègues, à part une, Dorothy Sayers, une grande romancière de polar, qui a dit finalement tout le monde est suspect dans un roman, donc pourquoi pas.
Et pourquoi pas ça aussi? Alors, cette dépression va l'amener à un événement tout à fait incroyable que vous évoquez très longuement dans votre ouvrage. C'est la célèbre disparition qui d'ailleurs va faire d'elle une star. C'est-à-dire que ses romans étaient populaires, mais à partir du moment où elle disparaît, là, elle devient une vedette à l'échelle européenne.
Oui, alors il va se passer ce que la presse a relaté immédiatement comme un fait divers extrêmement troublant. C'est-à-dire la disparition d'une romancière de mystère, d'un auteur de roman policier.
C'est un comble, oui.
C'était évidemment un comble. Subitement, donc, le 26 décembre 1926, Agatha monte dans sa petite voiture et part dans la nuit. Le lendemain, sa secrétaire qui avait justement déserté la maison pour la nuit revient et trouve la police qui annonce qu'on a retrouvé l'automobile de Mrs. Christie. Avec son manteau de fourrure, un sac contenant ses papiers, donc c'est comme ça qu'on a su que c'était elle, et on est déjà en train de la rechercher, et on va mettre très longtemps avant de la retrouver, parce que cette disparition est vraiment très très mystérieuse. Il se trouve que c'est un début de week-end, son mari est parti chez des amis en compagnie de sa maîtresse, donc ce qui va aggraver son cas à lui dès qu'on va le faire revenir vers la maison où il vivait avec Agatha Christie. Finalement, on va l'accuser dans un premier temps d'avoir assassiné sa femme, ce que fait toujours la police dans ces cas-là, enfin du moins...
Oui, c'est logique, oui.
Après avoir quand même essayé de retrouver le corps dans un étang près duquel la voiture de la disparue
était garée. Petite voiture, hein, vous montrez la photo, hein, c'est vrai.
Oui, elle conduisait sans permis, une Maurice. Et les jours passant, la presse ne cesse d'imaginer ou de faire imaginer des hypothèses concernant cette disparition. On va même chercher Arthur Conan Doyle, Edgar Wallace, qui étaient des grands auteurs à l'époque de romans policiers, qui émettent leur hypothèse.
C'est qu'en fait, c'est elle qui a voulu cette disparition. Elle l'a organisée, probablement.
Alors ça, ce sont les faits. Ouais. La réalité, on ne l'a pas connue tout de suite, parce que même après l'avoir retrouvée, la thèse officielle a été qu'elle était devenue amnésique pour disparaître ainsi, et surtout s'inscrire dans un hôtel de cure d'une ville du Yorkshire, sous le nom de la maîtresse de son mari.
C'est ça, c'est
étrange. Ce qui ressemblait quand même déjà à une sorte de roman qu'elle aurait imaginé, mais en fait, elle avait fait mieux que ça, c'est-à-dire qu'elle avait réellement monté complètement cette histoire avec l'aide de sa meilleure amie, qui s'appelait Nan, et qui l'avait pris en main à partir du moment où elle avait disparu, pris un train pour se rendre à Londres, et après ça, partir pour cette ville de Yorkshire.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck qui revient maintenant sur Europe 1, sur les déboires conjugaux d'Agatha Christie.
Eh oui, on a parlé de cette disparition assez extraordinaire, de son mari accusé de meurtre, nous disait François Rivière il y a un instant. La thèse officielle, finalement, ça a été celle de l'amnésie. Elle aurait, en quelque sorte, perdu la tête pendant un certain temps. Et puis, et nous y reviendrons tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on creuse un tout petit peu cette question, il semblerait que la vérité soit tout autre et qu'Agatha Christie soit beaucoup moins neutre et beaucoup moins innocente qu'il n'y paraît dans cet événement, qui a donc fait la une de l'actualité et qui a fait d'elle une personne très célèbre. 2 ans après cette disparition, le couple divorce. C'est un traumatisme de plus hein, dans cette vie qui, vous le comprenez, avait commencé comme une sorte de conte de fées, et puis petit à petit, évidemment, se confronte à la réalité. Et puis Agatha Christie va faire une rencontre. Alors, à la fin de son autobiographie, elle écrit « J'ai accompli ce que je désirais, j'ai fait un voyage, moins un voyage dans le passé qu'un voyage en avançant, commençant par le commencement, revenant à moi, qui devait m'embarquer dans ce voyage à travers le temps. » Justement, écrit Annie Combes, dont je vous disais un mot tout à l'heure, dans cette mise au jour d'un sens caché, elle a procédé un peu à la façon d'un archéologue pervers qui sélectionnerait dans les traces et les vestiges exhumés le matériel apte à étayer le scénario qu'il a envie d'élaborer. Eh bien, l'archéologie, on peut dire que c'est précisément la discipline qui aura été, pendant en tout cas toute la deuxième partie de sa vie, l'autre passion d'Agatha Christie, avec le récit d'énigmes évidemment. Les passions, du reste, ne sont pas sans point commun ni convergence. Il y a quelque chose d'archéologique dans la construction d'un récit de détection. Sitôt réglé son divorce avec Archie, voilà Agatha Christie qui, à l'automne 1928, se décide à partir seule pour Bagdad. Elle rencontre là des archéologues, elle s'intéresse de très près aux travaux en cours, notamment sur le site antique d'Ur en Mésopotamie, et elle y revient en 1930, elle a donc cette fois 40 ans, et c'est là, toujours sur le site de cette ancienne cité mésopotamienne, qu'elle fait la rencontre d'un jeune archéologue de 25 ans qui est le bras droit du directeur des fouilles. Il s'appelle Max Mallowan. Vous avez bien compris qu'elle a 15 ans de plus que lui, et ça ne va pas être sans poser des problèmes, car très vite, entre eux, c'est le coup de foudre. Je cite François Rivière dans La Romance du crime. « Ce garçon brun à la fine moustache et au regard pensif semble vivre dans la terreur de Mrs. Woolley. » Mrs. Woolley, c'est l'épouse du patron du chantier de fouilles. Il sympathise aussitôt avec la romancière qui se montre avec lui vive, drôle, mais surtout très intéressée par les rites de l'archéologie. Elle est particulièrement captivée par le récit que lui fait le jeune homme de la récente mise au jour du cimetière royal. Agatha Christie nous rappelle donc François Rivière à 39 ans, Max Mallowan seulement 26. Ils vont ensemble visiter les sites de Nippur, Negev et Kerbala. Agatha apprend ainsi à mieux connaître son compagnon. Évidemment, on va revenir aussi sur la figure, sur la personnalité, sur la jeunesse de Max Mallowan dans un instant en compagnie de François Rivière. Agatha et lui, nous dit-il, deviennent rapidement amis, ce que ne voit pas forcément d'un bon œil Catherine Woolley, sans doute agacée à l'idée que le jeune Mallowan, soumis à sa férule depuis son arrivée, se détourne de son giron. Elle ne pourra pas empêcher Max et Agatha d'amorcer d'abord un flirt timide, la romancière depuis peu divorcée et le garçon manquant d'expérience sur le plan sentimental, éprouvent un peu de mal à se lancer dans une aventure dont l'un et l'autre redoutent peut-être les conséquences. Et pourtant, ils vont y venir. Au cours d'un pique-nique sous une pluie battante, alors qu'Agatha a invité Max chez elle, dans le Devon, ils vont régler la question qui, jusque-là, nous dit François Rivière, faisait barrage à la décision d'Agatha. Une anglicane divorcée peut-elle épouser un catholique ? Max propose tout simplement d'abandonner sa propre religion. Le rire de sa fille de 10 ans jouant dans le jardin d'Ashfield avec Max achèvera de persuader Agatha qu'elle n'est pas en train de faire une folie. Soucieuse de ne pas attirer sur elle l'attention de la presse qu'elle a prise en horreur depuis cette affaire dont nous venons de parler, la romancière se remarie dans la plus grande discrétion le 11 septembre 1930 à Édimbourg. Et l'on peut dire qu'en même temps que Max Mallowan, c'est bien l'archéologie que va alors épouser Agatha Christie. Entre archéologie et écriture, dit Annie Combes, elle établit très vite des relations, ce qu'elle aime sur le lieu des fouilles. C'est imaginer la vie des gens, se raconter leur histoire, inventer ou retrouver le roman de leur existence. Inversement, la découverte de l'archéologie correspond dans son œuvre à la création de Miss Marple, ce détective de la mémoire. Elle correspond aussi à un désir de redonner vie au passé par l'écriture. L'archéologie permet de reconstituer des civilisations disparues. L'autre, c'est-à-dire l'écriture du crime, peut recréer le passé dans un discours au présent. Avec La mort n'est pas une fin, la romancière réalisera cette gageure. Par-delà les ruines des civilisations antiques, elle transposera la thématique policière au deuxième millénaire avant notre ère. On pourrait dire qu'à ce moment-là, la boucle est bouclée pour elle. En feuilletant tout le beau livre de François Rivière, on constate à quel point Max est là. Max est présent jusqu'à la fin pour accompagner la romancière, puis la romancière vieillissante dans toute la deuxième, la seconde partie de son existence. Sa présence est là, solide, discrète, ironique mais foncièrement sérieuse. Elle s'impose sur nombre de photos plus ou moins intimes et plus ou moins mises en scène. Et bien sûr, la photo la plus célèbre et la plus extraordinaire peut-être, c'est cette photo magnifique réalisée par Lord Snowdon à la toute fin de la vie d'Agatha Christie. On est en décembre 1974 à Winterbrook House, donc chez elle à Londres, chez eux devrais-je dire. Alors bien sûr, Agatha Christie n'est plus tout à fait celle qu'on a connue. Elle a beaucoup maigri, on pourrait même dire qu'elle a coulé, le visage est devenu étrange, mais les yeux sont intacts, le regard bleu perçant en harmonie parfaite avec la robe tout à fait à la mode de 1974. Elle est assise, elle, sur une sorte de sofa. Je parlais de chintz tout à l'heure, oui, on est dans cette atmosphère anglaise avec une cheminée anglaise couverte de porcelaine et de chinas. Et vous avez en face d'elle, dans une attitude de réflexion, de méditation même, cet homme à la moustache qui, pour être plus jeune que son épouse, n'en semble pas moins issu, sorti lui-même de la nuit des temps, l'archéologue aux côtés de la romancière. Nous y revenons dans un instant avec François Rivière.
Sur Europe 1 de la BO du film Mort sur le Nil, avec notamment Peter Ustinov, Bette Davis et Jane Birkin. A tout de suite, nous parlons aujourd'hui sur Europe 1 d'Agatha Christie.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Agatha Christie, la romance du crime aux éditions de La Martinière, c'est le titre du livre de notre invité aujourd'hui, François Rivière. Et Agatha Christie fait énormément réagir les auditeurs.
Oui, dites donc, via Facebook et Twitter aujourd'hui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Agatha Christie a de nombreux fans et que nos auditeurs sont ravis qu'on parle d'elle aujourd'hui. Mais tant mieux. Alors, des événements quand même assez forts dans cette existence qui, par ailleurs, paraît consacrée à la littérature, c'est-à-dire cette disparition donc en 1928, et puis dès 1930, la rencontre avec Max Mallowan. Je disais qu'il avait un côté extrêmement british, ce Max Mallowan, et vous me faisiez observer à l'instant, François Rivière, qu'il ne l'était pourtant pas tant que ça.
Oui, le jeune Max est né d'une mère française qui était cantatrice, qui était quelqu'un, d'après ce qu'on a cru comprendre, avec une personnalité assez enveloppante, ce qui peut-être l'a amené au fond à aimer les femmes qui le dominaient, quoi, puisque l'épouse de l'archéologue dont il était l'assistant,
Woolley, oui.
Catherine Woolley, qui a servi de modèle d'ailleurs à la victime de meurtre en Mésopotamie, cette femme avait mis aussi le grappin sur Max, qui échappait à sa mère, allait après tomber
sous la domination, sous la coupe
d'Agatha Christie. Oui. Coupe d'ailleurs dont il se défera, si je puis dire, beaucoup plus tard, en ayant une liaison avec sa propre assistante, qui allait devenir la seconde Lady Mallowan, puisqu'entre-temps il avait été anobli. Mais c'est un personnage intéressant, Max Mallowan. Ça a été un grand archéologue. Une fois que l'ombre de Leonard Woolley s'est un peu estompée, c'est devenu le grand spécialiste de l'archéologie sumérienne. Et il a publié d'ailleurs un livre qui s'intitulait Nimrud et ses restes et ses ruines. Enfin, je ne sais pas comment lire, il n'a jamais été traduit en français, qui a fait autorité. Et plus tard encore, quand il allait faire des conférences aux États-Unis, Agatha l'accompagnait et elle était absolument désolée du fait que lorsqu'ils apparaissaient tous les deux dans une salle de conférence, tout le monde se tournait vers elle et applaudissait, alors qu'en fait c'était vraiment son mari qui avait de l'importance à ce moment-là sur un plan international. Et en fait, l'archéologie a toujours passionné les Anglais, donc je crois que le public d'Agatha Christie a été très content de voir que cette femme s'associait à un personnage qui, comme elle, au fond, reconstituait le passé de personnage historique.
Alors nous avons fait pour l'instant de timides et rapides allusions aux grandes œuvres d'Agatha Christie. On a parlé de la mystérieuse affaire de Steele ou de Styles. On a parlé, on a dit un mot du meurtre de Roger Ackroyd. On a entendu la BO de Mort sur le Nil. il faudrait parler de Dix Petits Nègres, évidemment, qui est peut-être considéré comme le chef-d'œuvre. C'est une sorte d'épure de roman policier tout à fait exceptionnel. Mais ce que j'aimerais que nous fassions, c'est parler des deux grands personnages créés par Agatha Christie, Miss Marple, bien entendu, et avant elle, Hercule Poirot, bien entendu, qui est aussi célèbre qu'Agatha Christie. D'ailleurs, au moment de sa mort, au début de l'année 1976, le New York Times a consacré sa nécrologie, non pas à Agatha Christie, mais à Hercule Poirot.
Oui, effectivement, Poirot a été un peu l'emblème, enfin, de l'œuvre d'Agatha Christie. C'est un personnage qu'elle a imaginé de manière assez étrange, parce qu'il fallait surtout pas recréer un second Sherlock Holmes. Donc, elle a pris un peu le contre-pied de tout ça. Elle s'est inspirée de ces personnages qu'elle entrevoyait à Torquay pendant la guerre, qui étaient les réfugiés belges, des messieurs assez compassés avec des grosses moustaches
ça
et des chapeaux melons. Et elle en a fait une sorte de marionnette, finalement,
oui, voilà,
de détective totalement absurde, même d'une certaine manière, sur le plan humain.
Personnage.
Grand détective, l'homme aux petites cellules grises, bien sûr, d'une arrogance sans égale.
D'une confiance en lui presque insurmontable.
Et surtout, moi, ce qui m'amuse toujours, c'est de voir que Hercule Poirot est l'anti-anglais, enfin, l'ennemi des anglais. Enfin, pour lui, le thé, c'est le poison anglais.
Il parle très mal, d'ailleurs. On se rend pas compte dans les traductions françaises, évidemment. Mais
oui,
lorsqu'on lit Agatha Christie en anglais, d'ailleurs, c'est un truc que je donne à tous nos jeunes auditeurs, parce que c'est un moyen
conseil,
de réviser son anglais parce que c'est écrit de façon très facile. On se rend compte que Hercule Poirot. Alors lui, on lit très facilement ses répliques parce qu'elles sont plutôt écrites en français qu'en anglais. En franglais, on va dire.
Oui, il parle en franglais. Et oui, je vous dis, il déteste les anglais. Il comprend pas pourquoi ces gens sont toujours dehors, alors qu'il fait un temps épouvantable, que ces gens marchent avec des grosses chaussures, alors que lui a des chaussures vernies. Et surtout, bon, ne buvant pas de thé, il fait exprès, pratiquement, pour ennuyer tout le monde, de boire du chocolat à 11h du matin en y trempant un croissant.
Qui l'aligne bien à côté de la tasse. Alors, il y a un personnage qui a donné de l'humanité et de la chair à Hercule Poirot, c'est évidemment son très célèbre interprète David Suchet qui à la télévision lui a donné de l'âme en quelque sorte, peut-être plus que dans les romans même en fait. Hein.
Ben oui, il l'a incarné au sens propre.
Voilà,
alors que, à mon humble avis, Peter Ustinov cabotinait beaucoup et avait fait un personnage qui restait Ustinov,
oui,
en fait.
Ça, oui.
Alors que Suchet, oui, on a fait un personnage vraiment extraordinaire. Cette série télévisée est magnifique.
Hein. C'est dommage qu'Agatha Christie, finalement, n'ait pas pu la connaître elle-même.
Petit doigt m'a dit, c'est un extrait de la bande originale du film sorti en 2005, un film de Pascal Thomas.
Et oui, Pascal Thomas, mon compatriote poitevin, auteur notamment parce qu'il a consacré 4 films à des adaptations de romans d'Agatha Christie, mais auteur notamment bien sûr de cette trilogie où l'on voit le très savoureux et très distingué couple que forment
Catherine Froh
et André Dussolier. Hein, Tuppence et Toby, Prudence et Monsieur Beresford. Bonjour Pascal Thomas.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous au téléphone. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes très inspiré par l'univers et par l'œuvre d'Agatha Christie, mais que vous en avez fait, vous, quelque chose d'autre. Est-ce qu'on peut dire que vous avez francisé Agatha Christie ?
Disons que j'ai eu à l'adapter, disons, au paysage et aux mœurs françaises.
Oui.
Comme à partir du moment où ça se tournait en français, il s'agissait... C'est toujours une gêne d'avoir des Français qui font les Anglais.
Et dans le cadre somptueux du lac du Bourget, enfin, vous transportez tout ça dans une atmosphère alpestre que n'aurait pas renié Agatha Christie, du reste, qui aimait bien ce genre de climat.
Ça ressemblait au paysage de ses livres, c'est-à-dire des paysages très tranquilles, très, très paisibles. On avait même imaginé le faire au départ en Suisse, et puis duquel surgissent les monstruosités, les monstres... comme toujours, c'est le principe même du suspense, sous les visages les plus aimables, les visages les plus tranquilles, les monstruosités peuvent surgir. Et là, c'était parfait pour y trouver un cadre et à ces histoires.
Alors, évidemment, votre tempérament personnel et celui de vos acteurs principaux, notamment Catherine Froh, ont donné un tour assez loufoque aux aventures de ces deux personnages. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Agatha Christie, d'emblée, leur avait donné cette dimension fantaisiste.
Oui, bien sûr. Non, mais Catherine Froh, elle est plutôt laborieuse, elle n'est pas loufoque. c'est que la dilettante lui a donné une image, mais c'est quelqu'un qui est très loin du dilettantisme. D'ailleurs, je me demande même si elle avait compris le personnage. Mais on a poursuivi quand même, souvent les acteurs, ils peuvent être très bien interprétés sans comprendre exactement les ressorts secrets des créatures qu'on leur fait jouer. Mais en effet, Agatha Christie, déjà, a une fantaisie considérable. Une fantaisie qui est celle, d'ailleurs, on sort du grand théâtre anglais, de l'humour anglais. Elle est François Rivière vous dira ça mieux que moi, mais on sort de l'ère victorien, et puis bon, il y a cet esprit, cet humour anglais qui est toujours présent, et je pense qu'elle est une ironie considérable. Et elle les met dans ces personnages surtout ces personnages-là, pas seulement surtout, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que Poirot est aussi
une distance
ironique sur les choses, mais c'est comme une détente. Ici, il y a quelque chose de plus léger, je crois, dans la création de ces personnages-là.
Dans ces personnages, les Beresford, là, qui sont beaucoup plus légers. On sait que les romans d'Agatha Christie sont construits comme des mécaniques suisses. Hein, c'est extrêmement complexe. Ça ne doit pas être très facile à adapter au cinéma, ça, par définition.
Comme mécanique, je veux dire, à mon avis, il y a certains, mon petit domani, les rouages, à mon avis, les montres ne démarreraient jamais.
Oui, c'est vrai.
Si on les mettait toutes. Mais si on mettait tous ces rouages, parce que c'est François Rivière qui l'avait bien souligné, c'est qu'à la fin à partir d'un certain moment, elle s'amusait avec ses personnages comme une petite fille avec ses poupées. Et c'est-à-dire, le principe, c'est qu'on donne une personnalité à la poupée, puis on lui en donne une autre, et puis une autre, et puis une autre. Donc elle pratiquait ça avec ses créatures livresques. Et c'est très compliqué à adapter. Il faut en éliminer quelques-unes, parce que à la fois, vous avez un personnage qui est à la fois une danseuse, une chef de gang, une meurtrière, une ceci, une cela. Vous avez 12 personnalités, toutes plus terribles les unes que les autres. Mais il faut choisir, hein.
Oui, c'est ça. Il faut mettre en avant une partie de l'intrigue sans pour autant perdre l'intelligence de l'ensemble. C'est très complexe. Alors, vous avez réalisé Mon petit doigt m'a dit en 2005, Le crime est notre affaire en 2008. Et puis là, cette année, Associé contre le crime, toujours avec Froh et Dussolier. Alors, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas encore vu, moi, ce film. Ça fait 6 mois que je dis qu'il faut absolument que j'y aille. Mais je vais y aller, bien sûr.
Oui, il est moins réussi que les autres.
Ah, vous le trouvez moins réussi, vous?
Non, disons, je ne devrais pas dire ça. Mais disons qu'il a été plus difficile à mettre en œuvre, il s'éloigne. Enfin, il a une fantaisie à des moments qui sont. Si j'étais critique de cinéma, je dirais qu'il y a encore de beaux restes.
Bon.
Voilà.
Des restes. Et puis L'heure zéro avec François Morel,
oui.
Avec Daniel Darrieux.
Oui, donc là, c'est ce que je préfère. Là, pour le coup, la mécanique est parfaite.
Ah oui, tout à fait. Oui. On est peut-être plus proche d'ailleurs, oui, de l'atmosphère Christie, un poil peut-être moins de celle de Pascal Thomas. Merci beaucoup, Pascal Thomas, d'avoir répondu à mes questions.
Merci, François Rivière.
Et bien voilà, il vous entend. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire, justement, Pascal Thomas, qu'il est possible d'adapter Agatha Christie? On parlait de la série télévisée avec David Suchet, qui est d'une très très grande rigueur, qui colle littéralement au roman. Est-ce qu'il est possible de s'en éloigner et sans perdre finalement ce qui fait la force de tout cela?
Mais je crois que d'une certaine manière, elle qui n'aimait pas du tout le cinéma, elle appelait le cinéma le parlant, en référence à la période d'avant qu'elle préférait. Donc elle n'a pas été toujours très bien servie par les metteurs en scène. Hercule Poirot est devenu encore plus ridicule que dans les livres, dans les films en noir et blanc.
Juste là une parenthèse, ouais. Mais de son vivant, il y a eu Témoin à charge, qui est un chef-d'œuvre.
Charge
l'automne.
Deux exceptions qui confirment la règle. Les Dix Petits Nègres, filmés par René Clair pendant la guerre. Bon, le film malheureusement resté assez inconnu de ce côté de l'Atlantique. Et puis Témoin à charge, qui est quand même une très belle réalisation, mais qui est inspirée d'une de ses pièces de théâtre et qui a été tournée par Billy Wilder de manière absolument magnifique, oui, bien sûr.
Il y avait encore tant et tant à dire sur Agatha Christie, puis sur toutes ses œuvres. Bon, enfin, on refera une émission, si vous voulez, un jour, François Rivière. En attendant, je renvoie tous nos auditeurs à votre magnifique ouvrage « Agatha Christie, la romance du crime ». C'est édité chez La Martinière et c'est bourré de documents, de révélations, de photos. Enfin, c'est vraiment une plongée dans cet univers que nous adorons tous. Je disais tout à l'heure que nos auditeurs et nos auditrices nous ont adressé énormément de messages, mais je sais par ailleurs qu'il y a une véritable, on pourrait presque parler d'une population christienne en France. Il y a des gens qui vivent dans cet univers, dans cette atmosphère.
Ouais.
Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre idole Agatha Christie aujourd'hui, François Rivière. Bonjour Hélène Amornin.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les experts Europe 1, on va parler de quelque chose qui n'est pas forcément agréable, mais parfois ça fait du bien d'en parler, c'est le deuil. Comment faire son deuil? Eh bien il y a quelques étapes à respecter.
C'est de saison en même temps.
Voilà. On attend vos témoignages au 39-21, c'est 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. Je veux bien aller avec vous deux, me joindre à vous pour aller voir le dernier film de Pascal Thomas.
Voilà. On va faire un petit quart.
Voilà.
À demain.
Je vous embrasse Franck, à demain sur Europe 1.